l'espoir. Bonjour Jacques.
Bonjour Delphine. Pour changer un peu ce matin, parlons d'un livre tout frais paru, aussi intrigant que mince, je voulais apporter.
Ah, ok, je lis. Alors c'est de Charles-Édouard Racine, l'architecte, ok, aux éditions d'en bas. Au milieu de la couverture, il y a une citation là. Elles ont la préscience des impasses, nous nous mentons tant qu'il est possible. Ah, effectivement, c'est assez intriguant votre truc.
Oui, c'est une belle intrigue qui nous mène d'impasse en fissure. Ah. Et par les fissures, perce la lumière. Ce roman bref et intense se présente comme une enquête après un incendie. C'est l'incendie qui a réduit à néant un nouveau musée monumental, ambitieux, contesté. À part le gardien dans sa guérite, une seule personne se trouvait dans le bâtiment juste sur le point d'être achevé et donc totalement partie en fumée. C'était l'architecte. Okay. L'incendie était si dévastateur qu'on n'a pas retrouvé les restes du créateur maudit. Cette enquête ne doit rien au polar ordinaire. Pas d'inspecteur pittoresque aux méthodes insolites, mais un dispositif minimaliste, assez glacial. Mm-hmm. L'enquête se compose simplement de procès-verbaux, des dépositions de 7 témoins, le chef des pompiers, l'expert en assurance, un ami proche, l'ex-épouse de l'architecte, sa seconde compagne, etc. Entre ces dialogues avec l'enquêteur, s'intercalent des écrits de l'architecte, comme une sorte de puzzle, des traces éparses d'une pensée à reconstituer.
Très intriguant, effectivement.
Par son dispositif et son style, ce roman m'a fait penser au Max Frisch de la pièce Biographie, un jeu. Notamment par l'humour souterrain de l'auteur qui s'exprime totalement à l'insu de ses personnages. En ouverture, une magistrale gravure de Martial Leiter, l'artiste vaudois, oui. Petite mélancolie, d'après la célébrissime œuvre de Dürer, mais chez Leiter, la mélancolie a une tête d'âne.
De plus en plus énigmatique, votre truc, Jacques.
L'énigme s'éclaire et s'obscurcit à mesure que les témoignages sur l'architecte se juxtaposent avec des lettres où il se livre à la première personne, des textes qui expriment son credo de créateur. Mm-hmm. Cette juxtaposition construit petit à petit un portrait effectivement énigmatique du personnage. Le lecteur avance ou recule dans sa tentative de comprendre ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la surface. L'intrigue qui nous tient en haleine. L'auteur a une autre idée derrière la tête.
Et laquelle ?
L'architecte est le créateur par excellence. L'être qui veut, qui doit faire advenir un objet esthétique inédit. Esthétique et éthique aussi, parce que la forme n'a de sens que si elle exprime des valeurs. On est dans la confrontation avec la pensée dominante.
Non, finalement, il y a pas mal de romans sur la création, dont le héros est peintre, écrivain ou écrivaine, ou bien compositeur de musique.
Oui, et alors ici, le personnage de l'architecte va encore plus loin, parce que sa création a une fonction sociale directe. Il veut changer la société par ses projets architecturaux. Son projet visionnaire pour une école n'a pas été compris. Ici, il s'agit d'un musée. On débouche évidemment sur le rôle de l'art dans la société. On débouche sur la création artistique contemporaine et bien sûr aussi sur la question épineuse et polémique, la question de sa réception par le public, réception par les élites, par les médias, par la population. Bref, la révolte de l'architecte longtemps incompris qui finit par être consacré, mais je ne vous révélerai pas comment ni pourquoi il passe des échecs à ce succès. Donc, la révolte de l'architecte, sa tempête intérieure et extérieure, emmène le lecteur dans un parcours intellectuel passionnant. Avec, bien évidemment, pour maintenir l'intérêt et faire avancer le chemin public, avec des piques jouissives contre des gens qu'on peut s'amuser à reconnaître, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui compte, c'est la thèse de l'architecte. Alors attention, thèse est un gros mot quand on parle de roman. Mais je vous rassure, ce livre n'est pas encore un de ces essais académiques mal costumés en fiction. Non, le credo de l'auteur quant à l'art dans la société n'est pas asséné, il se lit en filigrane. Et pour finir, un bref extrait d'un écrit de l'architecte, vous voulez bien commencer, il est question justement du nouveau musée des Beaux-Arts.
Ok, alors je vais lire ça, c'est pas facile. Hein. Culture en conserve, invention du 19e, siècle bête. Accumulation, classification, pas de jouissance. Tristesse académique du style international, ennui pompeux des colonnades et des escaliers. Dernier vestige, le palais de Ceausescu. Pour changer, on a fait du musée une belle œuvre en soi, Guggenheim, qui devient le but réel de la déambulation rose. Les entrées au Louvre ont quadruplé depuis l'édification des pyramides de verre. Mais il n'y a plus rien à mettre dans l'écrin somptueux. L'ennui s'est déplacé du contenant au contenu.
Et je termine. L'amour des grands formats, c'est le gigantisme comme succès d'année de la grandeur. Comment le conservateur Milner choisit-il ses œuvres? En fonction du marché. Qui décide de la cote d'un artiste? La publicité, sa capacité à faire parler de lui, à être reproduit. D'où les facilités, les séries, les tics et trucs médiatiques. Une condition essentielle, être reconnaissable au premier coup d'œil. Œuvre reproductible à l'infini, vide de sens, interchangeable, c'est de la mémoire morte. Fin de citation. Et j'ajoute une dernière phrase, le credo de l'auteur. Il faudrait rester déchiré, ne jamais se résigner, être l'homme semblable au point de braise pascalien. Le point de braise pascalien, décidément un roman de 2024 qui invoque Pascal, ne peut pas laisser indifférent.
Alors, on est parfaitement d'accord. Cette recommandation de Jacques Poget de Charles-Édouard Racine, c'est L'Architecte, édition d'en bas. Merci Jacques.